Vous écoutez
RMC.
Et on accueille Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Félix Agneau, bonne année à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer.
Bon, Simonet nous rejoint dans quelques instants. Il attend la fin du match de l'Inter à Naples. S'il a pas en stress quand l'Inter joue, Simonet.
Et puis là, ils reprennent la place de leader. Là, ils mènent.
Mais dis-moi Gilbert, au fait.
Oui.
T'as vu du beau football ce week-end, non?
Ah oui, je voulais vous raconter un truc. À propos de repartir de derrière. Là. Bah, il se trouve que ce week-end, j'étais au match Séville-Bilbao.
T'étais à Séville, toi.
Ouais, Sanchez-Pizjuan, stade mythique, bien sûr.
Bah, oui, ah bah oui, ça, c'est la plus grande douleur.
Voilà.
En tout cas, pour moi, c'est...
Un stade qui a bien changé, qui a été relifté.
Ah oui,
tout,
bien sûr.
Stade plein, ambiance incroyable. Bon, voilà, le foot espagnol, de toute façon, c'est génial. Et en fait, il m'est arrivé une histoire assez étonnante. Je me suis retrouvé dans une tribune d'abonnés. Donc les abonnés en Espagne, Fred, il y a des papis, il y a des pères de famille. On vient en famille et puis tout le monde se connaît. Donc les mecs, ils viennent avec leur petit fauteuil.
C'est la famille.
Les sandwichs dans le papier alu, tu vois. Ils s'échangent les trucs. Enfin bon, on se retrouve au milieu de là. Et Lopetegui, il fait repartir comme en mode Guardiola là. Donc à chaque fois t'as les deux latéraux, ils sont limite au point de corner.
Ouais,
il y a un 6 mètres pour ton équipe.
Maximum,
Il s'écarte un maximum et là le gardien de Séville systématiquement il va donner un des deux latéraux. Sauf qu'évidemment les mecs de Bilbao, tout le monde le sait,
ils sont pas cons, ils y vont.
Donc ils y vont. Et donc quand il y a un 6 mètres pour Séville, c'est dans l'absolu, si t'as pas des joueurs hyper techniques pour y arriver,
ouais,
tu peux pas en sortir. Tu te dis bah le gardien il est obligé de dégager.
Et il continue quand même à le faire tout le match. Ouais. Tu vois, une fois, deux fois. Et en fait, les gens dans les tribunes, ça les rendait fous.
Eh oui.
Parce que les mecs, les abonnés qui sont là, ils disent, mais ils nous énervent, Lopetegui, mais dégage! J'en ai marre!
Et à l'arrivée, ils marquent un but quand en faisant ça.
Et à l'arrivée, il y a un partout, c'est un match, parce que Bilbao, ils sont quand même pas trop mal. Mais pour dire que dans les tribunes, quand même, en Espagne, les mecs, le système repartit derrière, je peux dire comment ça les gonfler, quoi.
Ils sont cons, ouais, ça dégage moi le ballon.
Mais oui, parce que, en fait, mais ça te fait trembler comme supporter, c'est normal. Enfin, tu te dis, mais pourquoi ils donnent pas un grand coup de pied dedans? Alors, puisque tu parles de ça, je me souviens d'une conversation que j'avais avec Thibaut Courtois à peu près trois semaines après le limogeage de Lopetegui. Et il m'avait dit avoir le droit de taper dans le ballon, c'est bien aussi un coup de temps en temps.
Bon, enfin voilà.
Parce qu'il y avait, cette même imposition au gardien, c'est le style Lopetegui, qu'il fallait relancer, mais vraiment de 12 cm, quoi. T'as pas le droit de faire des longues relances, quoi. Non, mais c'était un beau match en plus, hein. Franchement, moi, j'étais content que tu vois cette rencontre parce que Sanchez-Pizjuan est vraiment l'un des plus beaux stades d'Espagne. Séville fait un très beau jeu. Mais c'est deux oppositions de style, parce que Bilbao, ça reste quand même.
Et finalement, il y avait Jules Koundé titulaire. J'ai quoi de pour oublier Jules Koundé.
Il a joué latéral en plus parce que comme il y avait des blessé, il me semble, si je me souviens bien, non, il a joué latéral, non?
Oui, c'est ça.
Première période.
Alors, on va parler de vos week-ends de foot respectifs, les gars, mais Fred, t'as eu tes cadeaux?
Ah oui, mais non, mais moi, j'ai pas de cadeaux au roi mage, parce que je resterai la France. Ah oui, ici, c'est férié aujourd'hui.
Les Espagnols, ils ont leurs cadeaux aujourd'hui.
Ouais, ce qui, d'un point de vue culturel, est logique. Puisque l'épiphanie, c'est quand même les rois mages qui apportent des cadeaux au petit Jésus. Donc,
oui, le Père Noël, c'est quand même inventé par Coca-Cola, faut le rappeler.
Alors, en fait, mais pas l'épiphanie.
Alors, expliquez la raison, parce que moi qui suis du Nord.
C'est le rouge et blanc inventé par Coca-Cola.
Voilà, parce que c'est Saint-Nicolas. Parce que moi qui suis du Nord, on fêtait Saint-Nicolas aussi, c'est dans le Nord et en Belgique. Et donc, en fait, c'est une évolution de Coca-Cola-esque
de
Saint-Nicolas. De la Saint-Nicolas qui est fêtée le 6 décembre. Et donc, j'ai pris le cadeau, mais c'est vrai.
On va avoir un peu le foot.
Mais si, parce que c'est. Si ça a un truc avec le foot, justement.
Ah, bon
ah ouais, complètement. L'histoire de l'épiphanie. Parce que vous savez qu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui se joue à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et en fait, il y a quatre clubs qui sont qualifiés. Le Barça,
je crois que tu avais dit à Djerba.
Le Barça, le Real, l'Atlético et
Valence.
Et en fait, le président de la fédération avait consulté les joueurs, les capitaines de chaque équipe en disant bon, si on organise et tout ça, a priori, on va faire ça plutôt Arabie Saoudite, nanana. Et les mecs étaient OK, simplement si ils pouvaient passer le 6, donc l'épiphanie en famille. Voilà, surtout, en fait, c'est surtout, ça se fête surtout le 5 au soir. Donc, ils sont 5 au soir, et c'est le 6 au matin où les gamins ouvrent leurs cadeaux. Et donc, par exemple, la Valence et l'Orel sont partis en fin d'après-midi. Mais voilà, ça faisait partie des négociations en disant, OK, on veut bien jouer cette semaine-là la Coupe, la Super Coupe, mais il faut qu'on puisse passer, qu'on soit là pour le 6 janvier. Donc, ça fait partie aussi de cette culture-là. Et c'est la raison pour laquelle, puisque vous parliez d'Angleterre, ici, ça me paraît quasiment impossible qu'il y ait un Boxing Day, quoi. On peut pas jouer en Espagne entre Noël et Nouvel An.
Encore un but à Rouen. Christophe Lécuyer, je te coupe, Fred. Christophe.
Et ça fait 3, messieurs. Le calice jusqu'à la ligne pour les Messins. Ils sont en train d'être corrigés ce soir ici sur la pelouse du stade Diochon, un peu à l'instar du deuxième but. Le centre vient de la droite. La reprise, faudra vérifier. Je crois que c'est Nchobi cette fois-ci qui vient marquer, qui vient crucifier l'infortuné portier du FC Metz. Ça fait 3-0. Quel scénario ce soir pour le FC Rouen qui, c'est sûr, maintenant va se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Il reste moins de 2 minutes à jouer.
Bon, la question maintenant, Gilbert, c'est savoir si les amateurs vont réussir à marquer un but.
De quoi ? Les amateurs ? Oui, parce qu'ils ne sont pas amateurs, c'est ça que il est bon celui-là, il lâche pas le morceau. Donc 3-0. En tout cas, la Super Coupe, on va en reparler. Et Simonet nous renverra, nous rejoint. Tiens, Simonet.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Il est bien en forme, Simonet. L'Inter a gagné.
Je suis fatigué, mais bon.
T'es fatigué ?
Bah, c'était une longue journée.
Oui, trop de matchs aujourd'hui en Italie.
Je suis rentré à Turin. C'était longue. Je suis sorti de la maison que la petite dormait. J'y suis rentré, elle dormait déjà. Donc,
pour nous dire, c'était long. Tu vois, l'épiphanie en Italie, c'est pas comme en Espagne. Hein, on bosse. Hein.
Non.
Enfin, Simonet bosse, en tout cas.
On joue, voilà, mais c'est férié.
Non, mais c'est férié. C'est férié aussi.
Juste un mot, Julien, sur Arsenal-Leeds. On s'achemine vers une qualif d'Arsenal. Hein. 1-0, on est dans le temps additionnel. Julien ?
Qui a été difficile. Allô ?
Oui, on t'entendait pas. Vas-y, allô.
Pardon, oui, Arsenal, effectivement, qui va réussir à se sortir de ce guet-apens. Une première mi-temps exceptionnelle de Leeds, qui aurait facilement mérité de mener 2-3-0, tellement ils ont été bons dans cette première période. Et après, en seconde période, ils ont baissé de pied physiquement. Arsenal a augmenté son intensité à lui. Et c'est vrai qu'en sur la seconde période, c'est beaucoup mieux de la part d'Arteta et de ses Gunners. Mais en première mi-temps, ils ont énormément souffert contre le lead de Bielsa qui a vraiment fait une première période exceptionnelle.
C'est pas la première fois, hein, Julien, cette saison que Leeds a du mal à marquer.
Non, c'est vrai. Après, en Championship, ça va encore parce que en seconde période, tu continues à te créer des occasions. Mais là, contre une équipe de première ligue comme Arsenal, qui en plus avait une dynamique assez positive avant la rencontre avec Arteta, etc., d'avoir raté ces occasions-là, c'est ce qui leur a coûté le match. Après, tu savais que ça allait être beaucoup plus difficile après la pause. Et effectivement, la dynamique de la rencontre s'est complètement inversée. Et Arsenal, eux, ont marqué un but avec un peu de réussite, là où Leeds avait raté des énormes occasions face au but.
Dans quelques instants, donc, et jusqu'à 23h30, on a le temps de revenir sur vos week-ends de foot respectifs, bien sûr, Italie, Espagne, Angleterre. Polo Breitner, on le salue. Il est en hibernation, hein, comme la Bundesliga. Oui. Polo, c'est comme les marmottes.
Ça lui va bien en plus.
Voilà, il va revenir fort dans quelques semaines.
1 janvier.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Kevin Diaz, plus les drôles de l'âme, sauf Polo Breitner. Hein, la Bundesliga est en hibernation, je le rappelle. Julien Laurent Sella, Fred Hermel et Simonet Rovera. Simonet, donc tu as eu quasiment une journée entière aujourd'hui, hein, avec la Juve et l'Inter qui ont joué. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme information juste avant, c'est fini à Rouen, Christophe Lécuyer.
Ouais, c'est fini à l'instant, messieurs. Il n'y a pas eu photo, clairement, ce soir. Victoire du FC Rouen, pensionnaire de National 2. 3-0 face au FC Metz. Les Normands ont parfaitement comblé les trois divisions d'écart. Je vous rappelle les buteurs Dembi, Fataki, Diarra. Rouen qui affrontera Angers en 16e de finale, messieurs.
Merci, bonne soirée.
Quelle claque.
Et ça joue toujours entre Arsenal et Leeds 1-0. Ouais, c'est une belle claque, effectivement. Non,
c'est limite. Alors, même si Kevin va me dire qu'il y a des bons joueurs à Rouen, bien sûr, je n'ai rien contre. Mais c'est une faute professionnelle.
Une 3-0, ça fait beaucoup.
Ah, une équipe de Ligue 1 perd contre une équipe de ce niveau, c'est une faute professionnelle pour moi. Oui,
non, mais déjà, non, mais 3-0, Daniel. Mais 3-0, puis il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu une occasion pour Metz.
Il n'y a pas eu une
match. Heureusement, ils ont leur recrue parce que Jimmy Brown derrière et.
Pajot, au milieu.
Et Pajot, ça fait du bien. Mais ça...
Jimmy Brown
Non, Jimmy Brown, j'appelle Jimmy Brown parce que. Parce que c'est le.
Le producteur.
Le producteur, pas de l'after, mais.
Un excellent producteur de RMC Sport.
Excellent, oui.
Excellent. Remplaçant. C'est parti des meilleurs.
De break. Un remplaçant.
Juste en tout de Jérôme Thomas.
C'est le remplaçant du remplaçant de Jérôme Thomas.
Juste derrière Jérôme Thomas.
Juste derrière. Voilà. Ah oui, quand même.
Ah mais Jérôme là, il va s'évanouir.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de ta journée italienne?
T'es derrière.
Top, taisez-vous.
Il faut retenir
que Ibra ne suffit pas à sauver Milan. Ça, c'est la première des choses.
Ça, t'inquiète pas, c'est pas le retenir. On le sait d'avance et ça n'arrivera pas.
Ouais, mais c'est pas pour le niveau d'Ibra, mais c'est vraiment pour le niveau de Milan et certains de ces joueurs qui n'ont, je pense, aucune raison de. Mais j'étais pas même de s'habiller avec les maillots du Milan. Je pense qu'on n'aurait même pas les droits de l'acheter dans la boutique du Milan. Il y a un niveau de certains joueurs qui c'est.
Elle est énorme, ta punchline.
C'est effrayant. Moi, j'ai peur parfois quand je vois les. J'ai vu plusieurs fois Milan au stade cette année et je comprends pas. Je comprends pas comment. Sur les côtés droits, il y a des joueurs qui sont Calabria et Conti et un c'est pire de l'autre. Et une semaine, il y a un qui joue et la semaine suivante, c'est l'autre qui doit jouer, mais t'es obligé parce que t'en as que deux.
Le problème du Milan, c'est pas l'arrière droit, excuse-moi.
Non, mais pour dire, c'est pas l'arrière droit, mais il y a l'arrière droit, il y a les défenseurs centrales, il y a les milieux de terrain, il y a les deux joueurs qui jouent à côté de l'avant-centre, il y a l'avant-centre. On arrivera rapidement à faire 7-8 joueurs qui ne sont pas vraiment au niveau. Aujourd'hui, j'ai vu les pires matchs des Souzo de l'histoire.
Souzo, tu veux que je te dise, Simone, j'ai regardé le match aussi. Souzo, quand Ibra est rentré à la 50e, là, il était focalisé sur Ibra. En fait, il voulait donner le ballon qu'à Ibra. Même quand c'était injouable, il voulait donner le ballon à Ibra.
Donc, il l'a donné mal.
Ah oui, il lui a pas donné un bon ballon.
C'est terminé minutes. Arsenal, hein. Victoire d'Arsenal 1-0 face à Lille.
Mais par contre, pour aller dans le sens du Milan, l'entrée d'Ibra a fait quand même énormément de bien. Tu peux reconnaître. Et pourtant, c'est un Ibra à 70%. Hein.
C'est Ibra à 70, je pensais que tu disais à 70 balais. Non, c'est un Ibra à soi, même peut-être à 50%. Je te dis que, il a fait 3 entraînements, c'était 3 mois qu'il jouait plus, c'est un joueur qui n'a plus la puissance physique d'une époque.
Ouais, pour l'instant.
Il joue encore avec beaucoup d'intelligence. Parce que ses déplacements étaient bons. Il fait les premiers ballons qu'il touche, il fait une passe à Léao qui a une occasion importante qu'il rate. Mais là aussi, c'est vraiment Milan, c'est catastrophique et Ibra peut aider cette équipe à gagner quelques points en plus. Peut-être arriver à l'Europa League parce que c'est pas très loin. Les classements disent qu'avec 3-4 points.
Ils vont avoir du mal à remonter quand même. Hein. C'est le sixième, c'est Cagliari, ça fait 6 points.
Oui, mais après, il y a la place de la Coupe d'Italie que ça peut être récupéré. Donc, on verra. Milan peut même arriver en Europe, mais les niveaux de cette année, c'est une catastrophe totale. Ça, c'est la première chose que j'ai vue parce que c'était devant mes yeux. En même temps, la Juve gagne face à Cagliari, une des plus belles surprises de cette saison, sixième en Serie A, avec un triplé de Cristiano qui s'est sur 8 buts sur les 6 derniers matchs. Donc, on peut dire que tous les discours qu'on faisait, il est un peu à la fin, il est un peu fatigué, il est pas bon. C'était le début de la saison. Je pense que là, il a vraiment recommencer l'année comme l'avait terminé, c'est-à-dire très très bien avec beaucoup de buts importants. Et après, la troisième chose à dire, pour faire un peu comme les 3 points, c'est que Lukaku et Lautaro, ce soir, il arrive à 30 buts cette saison déjà. C'est pour être un duo qui c'est la première saison qu'ils jouent ensemble.
C'est un super duo. Est-ce que c'est pas la meilleure association d'Italie?
Je pense. Alors aujourd'hui, toutes les grandes équipes d'Europe jouent à 3 devant, pratiquement. Il y en a pas qui jouent à 2. Il y en a pas beaucoup qui jouent à 2. Et donc, je vais même dire que c'est les duos meilleurs en Europe peut-être, parce que il y en a pas beaucoup qui jouent à 2 devant et eux, c'est tout très bien. C'est vraiment complémentaire. Je pourrais pas imaginer les deux joueurs dans un autre système, peut-être à 3 avec un joueur de complément en plus. C'est vraiment Lukaku qui ouvre les espaces parfois et Lautaro va dedans, ou comme ce soir, Lautaro qui fait sortir un défenseur de sa trajectoire pour laisser la place à Lukaku avec son accélération, sa frappe puissante. Il fait une frappe, le deuxième but, il y a une erreur du gardien, mais il frappe à 111 km à l'heure. C'est quelque chose de. C'est une puissance physique en Italie, ça faisait des années, depuis Ibra, qu'on n'avait plus vu. Donc, je crois que la vraie réussite pour l'ensemble de Conte, il y en a beaucoup, mais la plus grande, on peut dire, c'est d'avoir créé cette duo qui en Italie, oui, c'est les meilleurs et surtout complémentaires comme j'avais jamais vu. Par contre, sur les attaquants, cette semaine, avec les deux buts d'Immobilier à Brescia, Immobilier est arrivé à 19 buts en 17 matchs.
Lui aussi, Lazio, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire cette année.
Son troisième à Lazio, là, ce soir. Hein.
Son troisième. Ils sont à 3 points virtuels, parce qu'ils ont un match en moins.
Ils ont un match en moins.
En rapport à Inter et Juventus. Ils ont une vraie chance pour moi de jouer les titres jusqu'à la fin. Parce que l'once titulaire, ou quand même les 11 joueurs de la Lazio, ils ont une qualité qui a rien à...
Ah, tu fais du Fred Hermel, là.
Non, mais...
Ah, tu nous vends du rêve.
Moi,
pour rien.
Moi, en Italie, de plus en plus de gens pensent que la Lazio peut se mêler à la lutte. Ouais.
Bon. Moi, je
dis ça, mais ça me laisse. C'est un honneur de faire du Fred Hermel.
Non, mais oui, parce qu'il fait du Fred Hermel, parce que tous les ans, tu nous vends la même chose, Fred, en Espagne, et puis à l'arrivée, c'est toujours les
Fred, pardon, je défends Fred. Pendant des années, t'as vendu que le foot espagnol était le meilleur du monde, il est revenu pendant des années.
Ça, je m'en fous, ça, c'est pas ça.
Et quand je parle des stades espagnols et du jeu espagnol, là, on a le patron, le grand boss, qui a passé le week-end de la CV, il a vu de ses yeux vus.
Exactement.
Il a touché, il a senti.
Moi, ouais. Fred, on a vendu du rêve, j'ai vécu du rêve.
Le boss, il est cramé.
Merci, Fred.
Il est cramé, le boss.
T'as vite à Madrid, mon petit gars, comme tu veux.
Ça fait des années que j'ai dit que pour moi, Milinkovic-Savic, c'est une des meilleures milieux de terrain en Europe, mais ça n'arrive pas à s'exprimer en Europe, mais un championnat italien, c'est un joueur qui fait énormément la différence. Immobilier, lui aussi, c'est un peu cette double visage de la Lazio. En Europe, c'est triste. Cette année, il s'est fait éliminer dans un groupe, vous l'avez vu, il y avait Rennes aussi. Sincèrement, il y avait toutes les possibilités de se qualifier. Après les tirages, les directeurs sportifs de la Lazio ont même dit, nous, on a l'ambition de jouer la Ligue des Champions, on est les favoris de ces groupes, on ne doit pas se cacher. Ils se font éliminer. Mais c'est le même discours. Immobilier n'a jamais marché dans une autre équipe qui ne soit pas une équipe italienne et avec la sélection est catastrophique. Et en Italie, depuis des années, c'est le meilleur buteur italien. Luis Alberto, c'est un jeu, il a fait déjà 11 passes décisives cette année. C'est les joueurs peut-être moins connus en Europe, mais avec plus de qualité. Et un jour ou l'autre, il va bien être appelé peut-être encore un peu plus en sélection espagnole, parce que c'est une autre découverte incroyable du directeur sportif tard de la Lazio. Derrière.
Pourquoi cette découverte-là, on ne les fait pas dans les clubs de Ligue 1? La Lazio, la Lazio n'a pas plus de blé que nos clubs de Ligue 1.
Quoi. La Lazio, pour moi, est le meilleur directeur sportif italien, sûrement.
L'Albanais, là, Iglitaré?
Iglitaré, qui a été le directeur.
Albanais.
C'est une anecdote, oui, Albanais, qui était recherché.
C'est pour ça qu'il y a le gardien qui est albanais.
Ouais, ça aussi, avec Berisha. Tare est recherché par les autres clubs, et cet été, Milan a tout fait pour faire venir Tare, pour lancer les nouveaux projets. Et vraiment, ils ont tout fait, ils ont fait des offres importantes, mais les présidents de la Lazio, Lotito, n'a jamais accepté de faire partir son atout majeur avec Simone Inzaghi, parce qu'après on parle des joueurs, mais Simone Inzaghi, ça fait des années que...
Simone Inzaghi, il y avait un truc qui était un peu écrit avec lui, hein, quand même, hein, que ça allait marcher comme entraîneur.
Oui, c'est vrai, on disait même aussi ça, on disait aussi de son frère qui malheureusement...
Ah, de son frère, je l'ai jamais entendu, de lui, oui, mais de son frère, je n'avais pas entendu...
Quand il était à la Primavera du Milan, son frère, on disait des très belles choses. Par contre, aujourd'hui, Filippo Inzaghi, le frère di Simone, il est en Serie B avec Benevento, il a terminé...
Il est toujours en jeu ou il n'est plus en jeu?
Imagine, aujourd'hui, il est hors jeu parce qu'il a une telle avance sur les autres adversaires. Il a fait la meilleure phase aller de l'histoire. Jamais une équipe à Noël avait autant de points en Serie B. Donc, il est lancé vers la Serie A. Filippo Inzaghi, ça fait une belle histoire même pour lui.
Dans quelques instants, on continue
Inzaghi,
le débat.
Simone peut confirmer qu'il était un des plus grands collectionneurs de la Serie A à l'époque. Hein.
Ah oui.
Grand séducteur. Oui, Simone Inzaghi.
Lui et Vieri, c'était presque.
Ah, les vedettes la vedette de la télé, ça tombait. Hein.
Ça tombait.
Ah oui.
Donc, et sur Filippo Inzaghi hors jeu, c'est farouche.
D'ailleurs, sa carrière.
J'avais dit, Filippo Inzaghi est né hors jeu.
Simone Inzaghi. Sa carrière, on a souffert à Simone Inzaghi.
Même Filippo,
Il pouvait rivaliser avec l'autre, là. Pas Vieri, tu sais, il y avait un autre qui lui a complètement plombé sa carrière avec les histoires de.
Cassano.
Non, pas Boriel.
Non, je vois de qui Denis veut parler. Un latéral même.
Qui jouait. qui joue à
Francesco Coco.
Ouais. Non, pas Coco non plus.
Bon, on a bien trouvé.
Cassano, Cassano.
Dans quelques instants, on revient. Blond,
qui c'est qui a dit Cassano?
Avec les drôles de dames.
RMC. Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Kevin Diaz avec Daniel Riolo. On salue Jérôme Rotten comme il se doit. Il vient de nous quitter, bien sûr. Il sera là demain soir dès 23h. Remplacé avantageusement par Julien Cazard.
Eh bien, il va bien le prendre. Bonsoir à tous.
Julien Cazard qui revient bronzé de vacances.
Bonsoir. Ah ouais, ouais. Ça, c'est la grande motte.
Petit coup sur le nez, là.
La grande motte.
La grande motte.
Microclimat.
Ah.
C'est en plus à côté du Cap d'Agde pour les amateurs.
Très bien.
De plage.
Fred Hermel est là.
Ah mais paf, tiens, enchaînement.
Julien Laurence, Simone Rovera, bien sûr. Je vous rappelle deux petites annonces. Lundi prochain, le 13, Julien sera là d'ailleurs. Nous allons à Reims, au restaurant Le Tablier, qui est un des repères des supporters rémois.
Mais donc, oui.
Ah d'ailleurs, il faut absolument qu'on invite le président du Stade de Reims.
Attends, mais c'est mon
pote. Ami personnel.
Mon poteau.
Caillot.
Oui. C'est mon gars sûr.
Bien sûr.
Mon gars souerté.
Sans doute le président de Ligue 1 qui a le plus d'humour.
Ah bah oui.
T'es pas énervé contre nous une fois il y a pas longtemps là.
Si je crois.
T'es sûr Gilbert plus, t'es pas Sadran. Sadran il a le sens de l'humour. Moi je sais pas ce qu'il lui faut parce que c'est un mec qui aime la déconne. Hein.
Quel déconne. Président de Ligue 1 a plus d'humour que Caillot? Pardon.
Rapid Canet. Non. Bah non il y en a pas.
Héros non quand même.
Mais ouais, non, mais là c'est la déconne, c'est la grosse déconne. On est à la limite du Jamel Comedy Club.
Super bon. Ça vaut 3 points.
Romélier.
Non mais lui il fait du stand-up. Il fait du stand-up PowerPoint. Franchement
ouais, c'est pareil, ouais.
C'est un genre.
Je t'ai écouté chez Dugas, c'était pas mal.
Ah Valdemar Quitta.
Ah ouais.
Ah non Valdemar Quitta potentiel.
C'est important d'avoir un gros sexe. Toi c'est drôle.
Un potentiel humour Valdemar.
Non d'avoir un beau sexe.
D'avoir un beau sexe.
Il a dit c'est important d'avoir un beau sexe.
Un beau sexe.
C'est exactement. Ah, il a quand même lancé son produit d'élargissement de pénis en regardant les joueurs de
l'émission. En tout cas il n'a pas de problème parce que quand il vient sonner chez toi il n'a pas de problème avec son sexe.
Bon. Par ailleurs, autre annonce, je vous le rappelle, vous pouvez gagner encore des cadeaux avec le grand jeu de la rentrée sur RMC, des consoles de jeu, des iPhone 11. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16 dès maintenant. Tirage au sort demain. RMC par SMS au 732-16. Et on en revient au drôle de dame immédiatement, bien sûr. Fredo.
Ah.
Varane.
Aïe.
Est un buteur.
Oui, alors tu vas me permettre simplement donner deux petites infos blessures importantes.
Ah. Vas-y.
Puisque ni Benzema. Ni Gareth Bale n'ont pris l'avion cet après-midi pour l'Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Ils vont affronter mercredi soir Valence en demi-finale. Gareth Bale, il a une sorte de grippe. Donc, si le Real se qualifie pour la finale dimanche, il est possible que Gareth Bale rejoigne l'équipe. Mais Benzema a pris un coup à Retafe. Tu me diras, sortir de Retafe sans prendre de coup, c'est quasiment impossible. Et donc, il a une contusion à la jambe gauche. Avec une petite lésion, bon a priori il sera absent pendant une semaine, mais en tout cas il sera pas là pour la demi-finale, voire la finale de la Supercoupe. Je vais faire la parenthèse. Varane, alors Dieu sait si on a de quoi s'inquiéter. Nous, là l'Euro arrive, hein. il est à côté là. Il y a quand même pas mal de joueurs de l'équipe de France qui sont pas bien physiquement ou qui inquiètent de par leur jeu. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau Varane, là il y a pas de quoi s'inquiéter. Le match qui nous sort à Retafe. Alors vous allez me dire, Retafe, non pas vous parce que vous connaissez le foot. Retafe, c'était le match compliqué par définition. Sincèrement, c'était vraiment c'est une personne du club m'a dit, on va jouer chez des charognards. Et c'est vrai que les mecs, c'est pas le.
C'est un peu l'équipe espagnol. De Ligue 1 de Liga quoi.
Ah ouais, mais non, mais ouais, sauf qu'elle, elle est hyper compétitive. C'est vraiment très dur à jouer là-bas. Les coups, ça pleut. Enfin, c'est tactiquement, c'est très bien orchestré, etc. Et Varane a marqué deux buts. Alors le premier est attribué au gardien pour un contre son camp. Mais enfin, c'est quand même lui qui met la tête sur un très beau centre de Ferland Mendy. On aura l'occasion de reparler un jour de Ferland Mendy parce que petit à petit, il est en train de faire son trou. Hein, l'ancien lyonnais. Et Varane, non seulement il met le premier but, il met le deuxième, mais surtout. Vous vous souvenez de cette petite musique qui disait oui, mais Varane, il est bien quand il y a Ramos. Sauf que Ramos était suspendu samedi. Et je peux vous dire que Varane a été vraiment le gros boss de la défense.
Oh, ça fait un petit moment, ça, que maintenant, on dit plus trop.
Ouais, quand même,
tu sais, quand même. Noté qu'il a grandi, quand même, ça va.
Ouais, non, il y avait encore parfois en Espagne cette petite musique.
Il y a deux ans, jusqu'à il y a deux ans encore.
Non, mais moi je te parle de l'Espagne.
Je vous rappelle quand même que le coup de Tintin et Milou avec Varane, c'était pas si longtemps.
C'était il y a deux ans, donc.
Non,
avant la Coupe du Monde 2018. Après, on l'a transformé en Tintin, on a jeté Milou à la poubelle.
Ouais, mais moi
je les ai plus les Milou, j'ai les Tintins dans ma voiture.
Moi je vais te dire, moi je te dis ce qui se passe en Espagne et ce qui se disait encore en Espagne. Mais là, il a fait la une de As. C'est rare qu'un défenseur fasse la une d'un journal sportif. Donc, mais vraiment, là, Varane, c'est vraiment taille patron. C'est vraiment un type qui est en train de prendre une dimension énorme. Et d'ailleurs, Zizou, je lui ai posé la question après le match. Il aime pas trop personnaliser les victoires de son équipe. Mais là, il a beaucoup parlé de Varane. Il a dit et c'était d'autant plus important. Naturellement, lui a parlé de Ramos, alors qu'il n'y avait pas le mot Ramos dans ma question, en disant Sergio n'était pas là. Et on voit qu'on a un autre leader. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ajouter à ça quelqu'un qui inquiétait beaucoup, on en a souvent parlé, c'était Thibaut Courtois. Bah là, il commence à faire gagner les matchs au Real. Hein. Parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'il est bien. Mais là, il nous fait trois arrêts dignes de Iker Casillas.
Donc le Real est de nouveau candidat à tout.
Bah, c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, de l'équilibre et de la défense... c'est une équipe qu'il faudra aller chercher, je pense.
Parle-nous du derby de Barcelone maintenant.
C'était bien.
Toujours un peu, voilà, et surtout qu'ils se sont fait rejoindre dans les toutes dernières secondes, le Barça, sur le buteur chinois, grâce au buteur chinois
Oulay. Alors, le club de l'Espagnol appartient à des investisseurs chinois, donc il faut toujours un chinois quand même pour le public. Mais celui-là, il est vraiment bon. Techniquement, il est bon, il fait une entrée magnifique et il met le but de la victoire. Alors ce Barça, le problème c'est que c'est la troisième fois...
Le but de l'égalisation.
Le but de l'égalisation, excuse-moi, à 2-2 à 87e minute. Le problème du Barça, c'est que c'est pas la première fois cette saison où ils sont menés 1-0 à l'extérieur, où ils reviennent, où ils mènent 2-1, et finalement ils se font égaliser. Ils ont perdu 17 points et notamment à l'extérieur, c'est plus de la moitié des points perdus à l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire c'est une équipe qui a de gros problèmes à l'extérieur. Et puis là, l'analyse qu'on peut faire de cette rencontre, c'est que le Barça, on l'a souvent dit, tient depuis des semaines avec Messi et Ter Stegen. Là, Ter Stegen est blessé. C'était Neto dans les buts. Et ben ça s'est vu. Il y a pas eu de miracle. Et ben il y a eu deux buts qui ont été pris. Le Barça, il y a une drôle d'ambiance. C'est pas. Il joue pas en équipe. C'est ça le problème, quoi. Et Valverde se fait démonter de plus en plus. Et on reproche beaucoup aux dirigeants de ne pas l'avoir licencié à la fin de la saison dernière. Après encore l'échec en Ligue des Champions et l'échec en finale de la Coupe du Roi.
Alors, dans quelques instants, tu nous reparleras de la Supercoupe. C'est le truc qui se développe un peu partout. En Italie aussi, on va jouer en Arabie Saoudite désormais. En France, pas encore.
Business, mais on a bien fait la Chine, on a bien fait les États-Unis.
On n'a pas encore fait l'Arabie Saoudite. On va encore faire le Dakar maintenant, tu me diras, en Arabie Saoudite.
Bon, on a fait la Chine et les États-Unis, c'est que toi aussi, tu fais voyager ta Supercoupe. Enfin, l'équivalent.
Oui,
sinon, Simonet, on attendait un petit peu de tes nouvelles sur le joueur qu'on recherchait. T'as trouvé, parce que moi, j'ai trouvé.
C'était quoi?
Bettarini.
Bah évidemment.
Eh oui.
C'était lui le plus gros tombeur de la Serie A. Sympa, c'était Samuel Bettarini.
Ah ouf. Là oui, d'accord.
Il n'avait pas une grande carrière parce qu'il était occupé à d'autres.
Ouais, dossiers. Mais il y en a quelques-uns en Italie comme ça. Et Borriello, il n'était pas un peu comme ça aussi?
Borriello aussi.
Ah, il y en avait des coquins.
Ligue 2 par rapport à. Ben oui, parce que c'était l'époque où, sur les trois chaînes de la Mediaset, tu avais dans chaque émission, tu avais au moins quatre nanas.
Ouais.
On appelait les Vélines. Et en fait, t'avais l'impression qu'à la sortie du studio, il y avait une porte où derrière, t'avais que les joueurs de foot.
Voilà.
Et donc, les transferts se faisaient facilement.
Alors, la cup.
Et certains se sont spécialisés.
Maintenant, Julien, bon, on a parlé d'Arsenal Leeds. Quels sont les principaux résultats sur lesquels tu veux revenir après ce week-end de cup?
Alors, le plus gros match, c'était le derby de Liverpool, hein, dimanche après-midi, entre Liverpool et Everton, avec Carlo Ancelotti sur le banc, bien sûr, pour ce tour dans la. En FA Cup depuis son départ de Chelsea en 2010, et c'était un derby. On savait que Klopp allait faire tourner, on pensait pas qu'il allait faire tourner autant, et en revanche on se doutait qu'il allait mettre son équipe quasi titulaire parce que
il y a un problème de ligne. On va rétablir une liaison,
on
va rétablir une bonne liaison avec toi parce qu'on t'entend pas très bien, ça coupe un petit peu.
C'est le Brexit, ça.
Je
capte plus rien du tout.
Ah bah bien sûr, Kevin,
il y avait une question pour Simonet.
Bettarini, le nombre.
Non, j'ai vu passer.
Doucement.
J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, Simonet, la grille des salaires en fonction des clubs en Italie. Et j'étais assez surpris d'ailleurs de voir que, bon, à part les 5-7 gros clubs, il y a quand même des salaires assez bas. annuellement. Et surtout, l'Atalanta qui est dans la deuxième partie de classement, si je dis pas de bêtises, 12e ou 13e. Mais en fait, l'Atalanta, ils ont des résultats quand même exceptionnels pour un budget vraiment minime, en tout cas par rapport aux grands clubs européens.
Mais la gestion salariale de l'Atalanta, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, dès qu'un joueur commence à être un peu recherché par les grands clubs, ils les vendent, pas des soucis. Ils ont derrière un réseau de formation qui est extraordinaire. On n'a pas parlé du transfert qui a fait la une sur les réseaux sociaux, sur les journaux en Italie de cet hiver, que c'était pas Zlatan, mais c'était Kulusevski, les joueurs de 2000 payés achetés par la Juve à 44 millions d'euros, bonus compris. C'est un joueur formé à l'Atalanta, qui a débuté en série avec l'Atalanta et a joué les derniers six mois en prêt à Parme. Et c'est un joueur de l'Atalanta. L'Atalanta retrouve avec son réseau. Et si tu parles avec des scouts qui font les tours d'Europe, elle te dit que les scouts d'Atalanta sont partout. Ils trouvent toujours de bons joueurs suivis par tous les grands clubs. Il arrive toujours les grands clubs derrière l'Atalanta. Ils ont cette force d'aller trouver des jeunes, les lancer. Et après, quand il devient très intéressant, il répond. Mais il gère comme ça. Hein. C'est tu vois l'âge aussi moyen de l'Atalanta, c'est très jeune, sauf Iličić et Gomez qui sont au-delà de la trentaine. Les autres.
Ah oui, si tu vois le jeu de l'Atalanta, l'équipe et le salaire des joueurs par rapport à certains de nos joueurs en Ligue 1, oui, tu peux te devenir un peu fou là.
Et les budgets de l'Atalanta. C'est une
histoire d'oseille, de salaire, de machin là. Oui, là tu. Oui.
Non. Et le budget de l'Atalanta est explosé dans les dernières années parce qu'ils ont fait une profit énorme avec la revente des joueurs, mais sinon c'était 40 millions environ il y a 4-5 ans. Aujourd'hui c'est sur les 100 millions, mais beaucoup est dû au trading des joueurs qui a permis à l'Atalanta de pouvoir implémenter son budget. Et pour parler de l'Atalanta, déjà qu'on y est, 5-0 la dernière match avant la trêve face au Milan, 5-0 aujourd'hui face à Parme, meilleure attaque de la Serie A, et aujourd'hui ils sont 5e. Pour dire, même pas qualifié en Ligue des Champions, font une saison extraordinaire. Et ça pour dire qu'il y a certaines équipes comme la Roma, comme la Lazio et bien sûr Inter et Juve, qui sont en train de faire une énorme saison. Et c'est top de classement de la Serie A. Il y a une abîme entre les tops et les bas. Mais les tops des nouveaux de Serie A, c'est très intéressant. Vraiment très intéressant.
On a retrouvé Julien pour nous parler du derby en Cup à Liverpool. Julien.
Oui, donc non, je vous disais qu'on s'attendait à ce que Jürgen Klopp fasse tourner un petit peu son effectif, pas son équipe, pas autant que ce qu'il a fait quand même. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs, même de très jeunes joueurs, comme le jeune ailier Harvey Elliott, qui a encore que 16 ans et qui a fait un très bon match avec un but de Curtis Jones, le gamin de Liverpool, âgé lui de 18 ans, un but fantastique, frappant roulé pied droit, pleine lucarne opposée à l'entrée de la surface. Et côté Everton, Ancelotti, lui, avait mis sa meilleure équipe parce que c'était un match très important pour eux aussi dans un derby qu'ils ont plus gagné à Anfield depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que pour l'instant tout réussit à Liverpool, tout réussit à Klopp, tout réussit à Liverpool, même quand c'est leurs jeunes joueurs, même quand Firmino, Mané et Salah ne jouent pas, ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est pas toujours brillant, encore une fois là ils ont souffert en première mi-temps notamment, mais ils s'en sont sortis et ça montre encore à quel point cette équipe aujourd'hui et ce club là à qui tout réussit est en train de faire une saison assez exceptionnelle.
Dis-nous un mot de Wayne Rooney là, qui est de retour en Angleterre, donc dans un club bon qui est pas un club de premier plan.
Non, à Derby County, de pensionnaire de la deuxième division du Championship. On attendait son retour. Son contrat avait commencé le 1er janvier, donc il a joué un match en championnat le 1er janvier justement. D'ailleurs, où il a été plutôt bon, ils ont gagné 2-1 à Fulham. Il a fait une passe décisive sur le premier but. Et puis le match de Coupe d'Angleterre ce week-end, où Derby a éliminé Aston Villa d'ailleurs, avec encore un bon Wayne Rooney. Et alors c'est une belle histoire parce que c'est le retour de Rooney à Derby, où il est entraîneur-joueur, où il va un petit peu se faire la main avec Philippe Cocu, qui est l'entraîneur de Derby, pour après devenir manager. Le côté un petit peu moins bien de l'histoire, c'est que son salaire est payé par le sponsor du club, qui est un bookmaker anglais, qui porte le numéro 32, qui est le nom de ce bookmaker-là, et que c'est pas forcément le genre de publicité que tu voudrais pour un joueur du genre de Rooney. Mais bon, au final, c'est quand même une belle histoire, même si la controverse fait effectivement...
C'est quoi son image à Wayne Rooney en Angleterre?
Alors c'est une image, tout dépend d'où tu te situes dans le pays en fait, Daniel. C'est l'image varie. Donc si t'es à Liverpool par exemple, lui d'Everton, forcément c'est pas un dieu vivant, mais il est très respecté, très apprécié. À Manchester, pareil, situé du côté rouge de la ville parce qu'il a quand même fait des choses exceptionnelles pour cette équipe. Et après dans le reste du pays, c'est vrai qu'il a une image un peu plus controversée, déjà par les scandales qu'il a connus et les couvertures des tabloïds.
Classe sociale aussi peut-être, non?
Oui,
les poches de Londres le regardent un peu comme le l'ouvrier, non?
Oui.
On a reperdu Julien, c'est bien dommage. Oui, parce que je connaissais pas l'histoire du numéro 32, là, c'est vrai que c'est un peu moyen quand même.
Ouais, c'est intéressant de savoir. Il est fort, Julien Laurence.
Moi, je l'ai vu, je pensais que c'était un hommage au Gers.
Oui, on l'a tous cru.
Mais en fait,
pourquoi tu connais tous tes départements? Par cœur.
Alors
ça, c'est son petit côté province.
Il faisait le jeu des plaques de circulation quand il était petit.
62, c'est trop 62, facile, même pas je te réponds. Enfin, ouais. Tu aurais pu me dire 67, quand même.
Moi, je connais que le 69.
Ça aussi pour toi.
Ouais. Bon, alors,
oui, Lyonnais.
Lyonnais.
Adore Lyonnais. J'aimerais quand même juste une information là. C'est sorti en Espagne, ça, Fred. J'aimerais quand même que voir si ça fait réagir dans vos championnats. Des médias espagnols annonçaient que l'UEFA et la FIFA réfléchiraient à mettre de la pub pendant les coupures VAR.
Oh bah tiens.
Oui. Oui, c'est la Cadena Ser qui a sorti ça.
Attendez,
est-ce que
j'avais cru que ça pouvait arriver.
Est-ce que ça a été repris dans vos championnats, dans vos pays respectifs?
Oui, bien sûr qu'on en a parlé, mais
bah, en Italie, il y a déjà des matchs sur certaines chaînes.
C'est tellement évident. C'est la culture américaine de toute façon, donc on sait très bien ce qui se passe aux États-Unis, donc ça devait arriver un jour, mais ça me paraît tellement
catastrophe.
Mais j'aimerais pas être l'arbitre qui va jamais aller voir la VAR pendant un match, il va faire perdre 400 000 balles à tout le monde, quoi. T'es sûr là qu'il n'y a pas faute? Ben non, allez, vérifie quand même. On sait jamais, là, j'ai mon savon.
Tu vois que l'arbitre peut prendre une enveloppe d'un sponsor, d'un mec qui met de la pub, il dit essaye d'aller le voir 3-4 fois.
Je vais vérifier quand même votre histoire.
Excusez-moi, mais on en rigole, mais c'est une catastrophe intégrale.
C'est affreux.
On en rigole.
Ça fait juste 3 ans qu'on en parle dans la
VAR n'était pas encore en place, qu'on avait déjà tout dit de ses excès et de
la budget.
Moi, maintenant, je m'avance. Moi, je vous annonce déjà la disparition physique de l'arbitre sur le terrain.
Je préfère en rigoler.
Ça, c'est l'étape d'après.
Mais il a disparu de toute façon.
Ouais, madame. Il est
là pour enregistrer ce qu'on lui dit dans l'oreillette. Ouais. Il est totalement déresponsabilisé. C'est déjà un robot.
C'est horrible.
Voilà. Ben oui, mais on l'avait prévu depuis très longtemps.
On n'a plus de caissière au Franprix déjà.
Je préfère en rire. Non, pourquoi au Franprix? Il y en a encore.
Il y a encore des frigas.
Bon, dans tous les supermarchés. Je vais encore les caissières.
Mais toi, tu vois, j'ai Fauchon alors.
T'as la partie,
oui, c'est vrai.
T'as la partie où tu peux passer le truc toi-même et tout, mais il y a encore
des caissières. Et bel arbitre, on devrait faire pareil. Il y a une partie où l'arbitre, il est là, puis une arbitre où il n'y a pas d'arbitre. D'accord. On décide.
Voilà. Bah c'est déjà ça s'appelle le VAR.
Ah oui, c'est ça, merde.
Oui,
mais là, il y a encore un humain derrière. Moi, je voudrais que ça soit automatisé totalement. C'est qu'il y a un ordinateur qui décide s'il y a faute ou pas. Point. Voilà.
Messieurs.
Avec un sifflet.
Oui, vous avez fait le tour, Fred Simonnet. Pas d'autres infos importantes à nous donner?
Non, mais il faut qu'on parle de la Supercoupe.
Ah, tu veux en dire un mot en plus? Alors, vas-y.
Bah ouais. Non, parce que, faut dire que ça, c'est hyper critiqué en Espagne. Mais vraiment, mais.
Bah oui, ça correspond pas trop à la culture du foot espagnol, cette histoire.
Oui, mais sauf que, voilà, il se trouve que c'était assez difficile de vendre la Supercoupe d'Espagne aux télés, c'est ce qu'a dit Rubiales. Sauf si ça tombait à être un Real Barça, les télés ne mettaient pas beaucoup d'argent pour un. C'était un match sec, hein, c'était comme un trophée des champions, voilà, comme ça. Donc il s'est inventé le nouveau président de la fédération, enfin, qui est là depuis un an et demi. Voilà, espèce de Final Four, là, avec deux demi-finales et une finale. Alors moi, je suis plutôt favorable à ça pour une raison très simple, c'est qu'il y a aussi une reconstruction de la Coupe du Roi qui est un peu plus intéressante, un peu plus vivante. Donc voilà, parce que
pourquoi qu'est-ce qui change en Coupe du Roi?
C'est-à-dire que maintenant tu vas avoir des matchs, t'as des matchs secs,
c'est plus aller-retour.
C'est plus. On avait vraiment le sentiment avant que tout était fait pour que les gros gagnent tout le temps. Voilà, en gros. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu plus vivant, etc. T'as plus les matchs entre le Real, le Barça et un troisième division. Voilà, parce que le Real, le Barça, l'Atlético et Valence ou l'Atlético et Séville, suivant leur coefficient, ils vont tout le temps jouer la Supercoupe d'Europe. Après. Moi, je comprends l'Espagne. Julien, il est pas loin. L'Espagne ne peut pas se battre contre les Anglais. Voilà, au niveau de l'argent. Donc, il faut trouver de l'argent ailleurs. Et il faut développer ce genre de choses. Et en plus, l'Arabie Saoudite, c'est tout à fait logique, puisque la Liga est très appréciée là-bas, surtout le Real Madrid. Donc, ça fait partie des par exemple l'Asie du Sud-Est, c'est très Première Ligue, mais on sait que le Proche et le Moyen-Orient sont beaucoup plus proches de la fans de la Liga. Voilà, donc c'est le monde moderne.
La Ligue 1, c'est l'argent. Et donc, dans quelle zone du monde qu'on domine un peu?
Déjà, on a du mal en France. Hein. Donc, si tu veux, bon.
Alors après, et je termine là-dessus.
Vas-y, pour conclure.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les matchs auront lieu à 20h, puisque à Jeddah, il y a 2 heures de différence. En plus, donc, les matchs vont jouer à 22h là-bas en Arabie Saoudite. Ce qui fait que pour l'Espagne, pour le prime time, 20h, ça sera parfait.
Merci Fredo, merci Simonet.
Pour parler de la Coupe du Monde, de la Super Coupe italienne. 3 ans de contrat avec l'Arabie Saoudite, 22 millions d'euros, 7 millions et demi pour édition. Donc, il y a c'est toujours une bonne raison économique de faire ça. Petite info mercato.
Ah, vas-y, pour
petite info mercato.
Vas-y.
Ervin Ongenda a signé au Kievo en Serie B. Vous vous souvenez, Ervin Ongenda?
Oh, Ervin Ongenda.
Bien sûr. Celui qui faisait la doublette à Ibrahimovic jusqu'au mois d'août.
Celui qui a fait la passe décisive, au moins pour la LFP, sur la talonnade d'Ibrahimovic à Bastia. Face à Bastia. Ah oui, des pigeons,
c'est
incroyable.
Pas une talonnade sur ce qu'il a
fait. Ah, il a eu sa période. Donc,
attends. Sur Modesto, pardon. C'est pas Lucas. Lucas, il fait passement de jambes.
Oui, mais Ongenda touche les ballons après sur les centres. Et pour la LFP, ça reste un.
Il y a une aile de pigeon, il touche.
Alors attends, c'est un truc qui est important.
C'est le fameux phénomène en jeune.
Simonet.
Ah oui, mais ça, c'est un mot qu'on emploie souvent.
Vous 22 millions sur 3 ans.
Combien?
22 millions, il a dit, Simonet.
Sur 3 ans. 7 millions.
Nous, c'est 120 millions par an.
Bah, écoute, t'as 4 équipes.
Et je pense que vous êtes enflés, les mecs. Oh,
comme d'un coup,
les Espagnols prennent 120 millions.
Claude d'autres, on l'a fait. Oh mon Dieu.
Salut les gars. Salut Simonet. Salut Fred.
Adios. Ciao.